Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Attaque terroriste ce matin à Tougan de FDS, tombé et plusieurs terroristes neutralisés. Et puis coopération Burkina-Russie, le président de l'Assemblée législative de transition a été reçu par son homologue russe dimanche. Justice, le procès de l'ex-ministre des Transports Vincent Dabilgou a été renvoyé au lundi 27 mars prochain. Et puis en invité, nous recevons le chercheur malien Mohamed El Khalil. Avec lui sera question de la nouvelle constitution du Mali. Une constitution qui devait faire l'objet d'un référendum dimanche dernier, mais le scrutin a été reporté. Interview à suivre en fin de journal. Deux éléments des FDS tués et plusieurs terroristes neutralisés dans une attaque à Tougan. Selon une source locale, le commissariat de police et la gendarmerie de la ville de Tougan dans la province du Sourou ont été la cible d'une attaque d'hommes armés ce 21 mars après Omega Media de source locale. Les premières détonations ont été entendues à l'aube ce mardi en croix. Les sources contactées par Omega Media, les tirs ont commencé autour de 5h30 et ont duré environ 45 minutes, a expliqué une autre source. Le bilan provisoire non officiel fait état de deux éléments des forces de défense et de sécurité tombés et de plusieurs assaillants qui ont été neutralisés. Et puisqu'on parle justement de terrorisme, parlant de lutte contre le terrorisme, le président de l'Assemblée législative de transition a été reçu par son homologue de la Russie dimanche. Une rencontre qui s'est tenue en marge de la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique pour un monde multipolaire qui s'est achevée hier. Le tête-à-tête entre les deux hommes a duré environ une heure et a permis d'évoquer la coopération interparlementaire entre les deux pays, tout en ne perdant pas de vue les questions cruciales telles que la sécurité et le développement socio-économique. À l'issue de leurs échanges, les deux présidents d'Assemblée ont annoncé à la presse des visites officielles mutuelles et la création de cadres de coopération, comme les groupes d'amitié et de travail. Sur la question, Omega Media a pu joindre le président de l'Assemblée législative de transition depuis donc la Russie. Il s'exprime ici sur la coopération entre les deux pays.
Nous avons choisi, en toute souveraineté, en toute responsabilité et en toute lucidité, de faire de la Russie un partenaire clé dans la lutte contre l'insécurité dans notre pays. Nous l'assumons totalement, car nos populations ne cherchent qu'à vivre en paix. Nous l'assumons totalement parce que notre survie en dépend. Le Burkina Faso a choisi la Russie pour nous accompagner dans cette lutte. Je vous invite en conséquence à accompagner cette option en toute solidarité et en toute sincérité. Du reste, nous n'avons aucun doute à ce sujet.
Ousmane Bougma se veut on ne peut plus clair. Avec la Russie, le Burkina renforce ses capacités.
Voilà, vous l'aurez compris, c'est plutôt un extrait donc du discours du président de l'Assemblée législative de transition. Nous y reviendrons. Et puisqu'on parle à l'instant de terrorisme, afin de renouer les liens de fraternité pour la recherche de paix et de cohésion entre les fils et filles de la terre du Burkina, l'association Burkina d'Ambelundi a organisé dimanche dernier une rencontre d'échange avec des autorités religieuses, des leaders d'opinion et des personnes de ressources de la communauté Peul sur la crise que traverse le Burkina Faso, en particulier la région du Sahel. Jean-Paul Ouédraogo.
Quête de paix et du vivre ensemble, c'est l'un des objectifs que s'est fixé l'association Burkina d'Ambelundi en organisant cette rencontre. Cette cérémonie d'échange avec les autorités coutumières, religieuses ainsi que les leaders d'opinion se veut un tremplin pour le retour de la paix d'antan. Tegamwende Abdoulaye Saint-Poré, secrétaire général de l'association Burkina d'Ambelundi.
L'objectif premier, c'est de contribuer à la recherche de la paix qui aujourd'hui est le maître mot, qui aujourd'hui est ce qui préoccupe tout Burkinabé. C'est analysant effectivement le contexte dans lequel nous vivons. C'est une association qui a pour ambition de réunir toutes les ethnies du Burkina pour travailler d'abord à un retour vers nos valeurs. Ces valeurs qui ont toujours fondé le bien vivre ensemble de nos communautés.
Pour l'émir de Baraboulé, une localité du Soum, passée sous contrôle de groupes extrémistes, cette initiative est la bienvenue. Selon lui, tout sera mis en œuvre pour que toutes les communautés vivant au Burkina puissent se tenir la main et vivre en harmonie. Et
ce qu'on va faire, on va essayer en tant que coutumier de faire des messages véhiculés au niveau des jeunes pour qu'on se comprenne. On va chercher donc notre souhait de faire des messages d'entente entre Peul, Mossi et Djoula et tout le monde s'entendre comme avant. Puisqu'on a fait 500 ans, on est là ensemble avec toutes les ethnies, aucun problème. Donc on souhaite que ça revienne. C'est l'insécurité qui m'a amené ici, ça fait 7 ans avec toute ma famille. Donc ce que je souhaite, longue vie, la paix au niveau du Burkina.
Burkina Dabe Lunde est une association apolitique née de la volonté d'hommes et de femmes burkinabais œuvrant pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Elle regroupe des membres d'une soixantaine d'ethnies vivant au Burkina.
Radio Omega, un mot de justice dans cette édition. Aussitôt repris, le procès de l'ex-ministre des Transports, Vincent Dabilgo, a été renvoyé au lundi 27 mars prochain. Ses avocats ont décidé de ne plus poursuivre la défense de leur client pour convenance personnelle. L'accusé a donc demandé la suspension du procès et son renvoi pour lui permettre de se trouver de nouveaux avocats. Promouvoir la bonne gouvernance administrative, mais aussi contribuer à la réduction de la fracture sociale sont entre autres les défis à relever par le médiateur du Faso. Ce mardi, le médiateur du Faso donc s'est entretenu avec les représentants du gouvernement et les partenaires techniques et financiers sur le plan stratégique 2023-2027. Objectif, accroître la performance du médiateur du Faso pour répondre aux besoins des citoyens afin de contribuer à la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Fatima Sanou est au micro de Faouzia Zongo.
Il y a une grande déchirure au niveau des différentes communautés. Le médiateur du Faso a fait le diagnostic de la situation sur son efficacité et son intervention et sur cette question. Et nous avons vu qu'il y a des défis à relever. Alors, pour répondre à ces défis, le médiateur du Faso s'est doté d'un plan stratégique qui va couvrir la période 2023-2027. On a dégagé deux axes stratégiques pour répondre à ces défis. D'abord, le premier axe stratégique, c'est la bonne gouvernance et le rayonnement de l'institution. L'ancrage de l'institution médiateur du Faso, son efficacité au niveau donc du paysage institutionnel. Et le deuxième axe, c'est comment réduire la fracture sociale à travers la cohésion sociale et l'instauration de la paix au Burkina Faso. Donc voilà donc les deux axes autour duquel a été bâti le plan stratégique. Donc il est clair que le médiateur du Faso ne peut pas réussir seul à relever ces défis. C'est pourquoi nous avons invité et les représentants du gouvernement et également les partenaires techniques et financiers pour leur présenter ce plan ambitieux dans le but, bien sûr, d'avoir leur accompagnement pour sa mise en œuvre.
Le médiateur du Faso, Fatima Sanou. L'inclusion comme arme pour conquérir un meilleur vivre ensemble. Le Centre d'études de coopération internationale organise depuis hier une session de formation sur l'inclusion, la communication interpersonnelle et les techniques de montage de projet. Cette session réunit plusieurs membres de différentes associations humanitaires à travers le pays. La rencontre se tient du 20 au 21 mars à Ouagadougou. Faouzia Zongo et Chalda pour le reportage.
Le CECI, Centre d'études de coopération internationale, accompagne ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs à travers la formation. Pour cette session, il s'agit entre autres de renforcer les capacités des agents humanitaires sur la promotion de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans tous les secteurs d'activité. Jean-Barthélemy Ouattara, directeur pays par intérim de CECI-BF.
Comme vous le savez, au Burkina Faso, l'inclusion des personnes vivant avec un handicap tel que la santé, l'employabilité n'est pas une chose aisée. C'est un grand défi. Alors, ce qui fait que le CECI a initié cet atelier de formation pour quand même promouvoir cette action, mais aussi de contribuer, de permettre aux personnes vivant avec ces handicaps-là de pouvoir participer aux différentes activités dans tous les secteurs d'ailleurs.
Pour le formateur Daouda Yamyogo, une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap est un gage d'un meilleur meilleur vivre ensemble.
L'inclusion de ces personnes va certainement contribuer à améliorer la cohésion sociale, va aussi mettre à la disposition du pays des compétences qui sont parfois ignorées, mais va aussi participer à la cohésion du tissu social.
D'autres modules seront également développés, notamment la communication interpersonnelle et le montage de projets. Une quarantaine de personnes bénéficieront de cette formation qui devrait accroître l'impact de leurs activités sur la vie des communautés. Yérirène Sib, participante.
Cela va nous permettre de renforcer notre capacité en termes de montage de projets et aussi aider aussi nos membres qui sont en petits sous-groupements de pouvoir monter aussi des petits projets afin de pouvoir renforcer leurs capacités et puis augmenter leurs sources de revenus.
Le Centre d'études de coopération internationale CECI intervient au Burkina Faso depuis 1985. Un organisme qui combat la pauvreté, l'exclusion et les inégalités à travers des projets de développement durable en Afrique.
Radio Méga, hors de nos frontières, libéré hier après près de 2 ans d'enlèvement, le journaliste français Olivier Dubois est arrivé ce mardi en France. Il avait quitté le Niger le matin même. Le président français a accueilli l'ex-otage à son arrivée. Et nous restons en France où l'Assemblée nationale a rejeté hier les 2 motions de censure qui avaient été déposées après le déclenchement du 49.3 par Elisabeth Borne pour faire passer la réforme des retraites. La grève se poursuit cependant et se durcit dans les raffineries et de nombreuses stations françaises sont à sec pour la première fois depuis le début du conflit. Pendant ce temps, au Kenya, un manifestant est décédé hier dans des affrontements avec les forces de sécurité. La capitale a été le théâtre d'affrontements entre police et manifestants. L'appel à manifester a été lancé par Raila Odinga, le chef de l'opposition. Une manifestation qui visait à dénoncer la flambée des prix et surtout à exiger la réouverture des serveurs électoraux puisqu'il conteste toujours la victoire de William Ruto à la présidentielle d'août dernier.
La revue de presse.
Et nous retrouvons Abdoulkader Konaté pour la revue de ce jour.
Olivier Dubois, libre, s'exclame l'observateur Palga qui affiche la photo du journaliste français tout en sourire. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de Iyad Agali, qui l'avait kidnappé le 8 avril 2021 à Gao au Mali, a-t-il été visité par le Saint-Esprit en cette période du carême chrétien, s'interroge le pays. Pourquoi les hommes de Iyad Agali ont finalement libéré Olivier Dubois, questionne pour sa part, aujourd'hui au Faso, qui se demande si le GSIM est disposé à dialoguer avec le Mali, le Niger et le Burkina, lui qui sévit dans ces 3 pays et qui est en butte avec des hommes de l'EIGS d'Al-Sarawi. Tout en partageant la joie et le soulagement de la famille et des amis d'Olivier Dubois, l'observateur Palga pense qu'il ne faut pas perdre de vue ce qui a été mis sur la table, car ce n'est certainement pas pour les beaux yeux bleus d'Emmanuel Macron ou la belle chevelue lisse de Mohamed Bazoum ou encore moins pour la zakat à l'approche du jeune musulman que les ravisseurs ont remis le prisonnier en liberté, commente le journal. Si pour l'heure, les conditions de sa libération n'ont pas été communiquées, le pays pense que plusieurs acteurs ont œuvré pour qu'il recouvre la liberté. À ce propos, l'Obs croit que Paris et Niamey et pourquoi pas Washington figurent parmi les principaux acteurs de cette libération, comme semble indiquer ce message de gratitude du désormais ex-otage. Je vais rendre un hommage au Niger pour son savoir-faire en mission délicate et la France aussi. En tout cas, pour le journal des 1200 logements, c'est sans doute un grand coup pour le Niger de Mohamed Bazoum qui prend du galon en matière de libération d'otages. Cela dit, si cette libération d'otages constitue une bonne nouvelle pour les pays du Sahel, elle est aussi le signe que les frontières de ces pays restent poreuses, déplore le pays, car si les ravisseurs ont pu franchir les frontières du Mali, du Burkina, pour finalement se retrouver au Niger où les otages ont été libérés, c'est que le Sahel reste un vaste territoire à sécuriser davantage. Puisqu'un otage peut en cacher un autre, L'observateur Palga appelle à garder en mémoire que notre journaliste est toujours entre les mains des djihadistes dans le Sahel. Il s'agit du Malien Moussa Mbana Diko, enlevé 10 jours après Olivier Dubois et dont la cause ne doit pas rester orpheline.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Comme annoncé en titre, nous parlons de la nouvelle constitution au Mali. Elle devait faire l'objet d'un référendum dimanche dernier, mais le scrutin a été reporté. Pour quand? Quel impact sur le chronogramme de la transition en cours? Une nouvelle prolongation est-elle possible? Des questions auxquelles répond le chercheur malien Mohamed El Khalil. Il répond aux questions d'Abdoul Fattah Tiemtouré.
Mohamed Abdellahi El Khalil, bonjour.
Bonjour.
Dites-nous, le Mali s'apprête à adopter par référendum une nouvelle constitution, un projet qui a été présenté au chef de l'État fin février. Qu'est-ce qui change avec ce nouveau texte fondamental au Mali?
Ce nouveau texte s'inscrit dans l'esprit de la refondation de l'État malien. Et ce texte écarte carrément d'abord l'hypothèse d'une fédération qui était un peu, on peut le dire, précorrigée ou supposée dans l'accord d'Alger. Il y a aussi une affirmation claire du caractère unitaire de l'État, ce qui prédit qu'il n'est pas question que nous ayons un État fédéral. La nouvelle constitution proposée, qui sera proposée au référendum, affirme que le président de la République détermine la politique de la nation et le gouvernement conduit la politique de la nation déterminée par le président de la République. Par contre, dans la constitution de 1992, c'est-à-dire l'actuelle constitution, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Et également, nous constatons des remarques telles que le président nomme le premier ministre et les ministres, et met fin à leurs fonctions. Le gouvernement est responsable devant le président et non plus devant l'Assemblée nationale. Cette nouvelle constitution appuie sur l'impossibilité de toucher à la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2. Quelques changements qui nous poussent à adhérer à cette philosophie, à cette nouvelle constitution.
Comment est-il accueilli au niveau des différentes chapelles politiques, la société civile? Comment la société malienne accueille ce texte-là?
Parmi les amendements que certains partis politiques ont des partis très sérieux qui ont demandé de le faire, c'est par rapport à la caractéristique des Maliens binationaux. Si tu es malien, tu es au Ghana, tu es au Tchad ou en France, tu as la nationalité française, mais malienne également, mais tu veux être candidat. Les textes disaient que tu devrais d'abord renoncer à ta deuxième nationalité avant des partis politiques qui ont proposé non, qu'il faut et qu'on soit d'abord candidat et après l'élection, on renoncera à notre seconde nationalité pour pouvoir vraiment s'asseoir sur notre chaise. Et la question aussi autour de la Cour constitutionnelle, etc., etc.
Des questions autour de la Cour constitutionnelle?
Oui, il y a des questions, par exemple, la nomination, le nombre des membres, des représentants de la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est la Cour constitutionnelle qui doit gérer les élections? Est-ce que uniquement c'est l'AIGE qui doit chapeauter les élections? Donc voilà des débats qui ont eu lieu.
Alors, certaines voix récemment se sont également élevées pour demander le retrait de l'expression « État laïque », la laïcité, au profit de « État pluriconfessionnel ». Certains y voient déjà une tentative d'islamisation du Mali. Qu'est-ce que vous en pensez?
Peut-être qu'il y a eu un jour, c'est-à-dire il y a un jour où on n'a pas bien expliqué, il y a eu des débats qui n'ont pas été... L'État n'a pas beaucoup sensibilisé, à mon avis, par rapport à cette question, parce qu'il fallait toucher les intellectuels qui connaissent bien le sens de laïcité, parce que le nouveau texte a bien expliqué la conception malienne de la notion de la République laïque. La laïcité a pour objectif de promouvoir et de conforter le vivre ensemble dans la société fondée sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. Ça, c'est dans l'article 32 de cette nouvelle constitution. Donc, mais en ce sens, c'est l'État malien qui sera le garant, qui garantira le respect de toutes les croyances ainsi que la liberté de conscience, de religion et d'autres exercices de culte. Donc voilà un peu, mais moi ce que je lance, l'appel que je lance ici, je demande aux autorités de la transition vraiment d'écouter, d'ouvrir leurs oreilles par rapport à ces cris de cœur de l'imama, parce que l'imama est une association islamique très 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 sérieuse, qui est vraiment représentée ou qui parle au nom des musulmans, qui parle également au nom avec des imams du Mali. Donc il faut les écouter, il faut dialoguer avec eux, il faut les questionner, il faut les faire comprendre. La philosophie de l'imama n'est pas du tout de faire du Mali une république islamique, mais de pousser le monde entier à comprendre les valeurs ancestrales et culturelles de la religion islamique malienne.
Parlons de ce référendum justement qui était prévu le 19 mars et qui a été reporté. On n'a pas encore de nouvelles dates. Quel est l'impact que cela pourrait avoir sur le chronogramme électoral général qui devrait se terminer par la présidentielle de 2024, en février notamment? En clair, est-ce qu'il y aura une nouvelle prolongation de la transition?
Moi, je pense que d'abord, cet avant-projet de constitution a été remis avec 2 mois de retard sur le délai initial imparti. Avec ce retard, déjà, on devrait reporter ce référendum. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre obstacle. L'un des obstacles qu'on peut souligner, c'est l'obstacle même de ce cri du cœur de l'imama qui peut-être a poussé les autorités de la transition de suspendre d'abord afin de dialoguer avec les autres partis. Parce que ce n'est pas l'imama seulement Il y a des représentations politiques qui sont dedans, qui on n'a pas cité. L'État n'a pas encore communiqué sur ça. Donc je pense que ce report-là, c'est pour pouvoir vraiment mettre tout le monde dans le bain, afin qu'on puisse se prononcer avec la même voix que le lui apporte pour que le Mali quitte ce statu quo pour avoir vraiment une constitution qui réponde aux aspirations du peuple malien.
Et cela va susciter, va entraîner un glissement au niveau du chronogramme électoral. Est-ce que les élections de février 2024 sont tenables?
Moi, à mon avis, depuis qu'il y a déjà la constitution de 1992 qui est toujours présente, qui n'a pas été mise à terre et qui a encore la charte de la transition, moi, à mon avis, je me suis toujours dit que le délai qu'on avait dit à la transition, ce délai sera en Afrique. Je sais qu'on va bouger un peu. De 2 ans, ça, j'en suis sûr et certain que les élections n'auront pas lieu en 2024. Ça, c'est mon avis personnel, mais c'est là n'engage que moi.
Merci.
Je vous en prie, merci beaucoup.
C'était l'invité de la rédaction.
Voilà, c'est avec notre invité Mohamed El Khalil que nous refermons cette édition. Adama Konaté à la réalisation assistée par Bernadette Parmaroda. Denis Zungrana pour la présentation et nous refermons avec ce proverbe. Quand le chasseur rentre avec des champignons, on ne lui demande pas des nouvelles de sa chasse. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir présenté cette édition. Excellente journée.
Radio Omega, l'info en direct.